Il est 9h15, minutes comme promis, en début d'émission. Myriam Gilbert de Bibliothèque et Archives nationales du Québec de la rue Jacques-Cartier est dans mon studio. Alors, on va aller la rejoindre tout de suite. Allô, Myriam.
Allô, Annick.
Myriam, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très, très d'actualité depuis les dernières années. Il y a eu la COVID qui s'est promenée de pays en pays. Là, c'est la rougeole
qui
est de retour, effectivement. Ouais. On en parle beaucoup cette semaine. Tu vas nous raconter une histoire en lien avec la peste.
Oui, exactement. Donc, il y a même encore quelques cas de peste, des fois, qui sont répertoriés, surtout aux États-Unis, mais tu sais, c'est plus isolé, là. Il n'y a pas de grande épidémie. Mais à l'époque, donc, il y avait vraiment beaucoup de décès dus à la peste. Ça pouvait décimer des populations entières. Et en 1721, il y a eu une grosse épidémie de peste à Marseille, en France. Donc, on se dit Marseille, hein, c'est loin, tu sais, c'est loin d'ici. Mais en fait, ça a quand même fait des victimes ici. Donc, je vais vous raconter un petit peu comment ça a pu se produire. Parce qu'en 1721, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de population. Ouais, il y avait les Autochtones, évidemment, et des pères missionnaires et des gens qui faisaient la traite des fourrures.
Il n'y avait pas beaucoup de touristes.
Non, pas vraiment. Et donc, comme je disais, de 1720 à 1722, Marseille a fait face à une épidémie qui a laissé derrière elle 40 000 morts sur les 90 000 habitants de la ville. Donc, c'est presque la moitié. De Marseille, oui. Et dans toute la Provence, on estime que le nombre de victimes a dépassé les 400 000 morts. Fait que c'est quand même quelque chose. Et pendant longtemps, on a cru que le mal était arrivé par le bateau Grand Saint-Antoine, qui était parti de Syrie 9 mois plus tôt. Mais des recherches génétiques récentes tendent plutôt à démontrer que le bacille meurtrier de cette épidémie-là, en fait, remontait à l'épidémie de peste de 1353. Donc, il avait fait vraiment des millions de morts. Il a manqué éradiquer la population humaine.
Ça remonte jusqu'à aussi loin.
C'est ça. Donc, on dit que finalement, le bacille serait resté latent pendant 4 siècles. T'sais, ça peut rester longtemps latent et que ça aurait été réactivé dans des circonstances qui demeurent encore inconnues. Et le 22 juin 1721, pour faire le lien avec ici, le père Laure, qui lui était un jésuite qui venait dans la région pour évangéliser les populations autochtones, il va aller au poste de traite de Chicoutimi et il va procéder à la sépulture du chef Innu Joseph Marachikatik, qui était un personnage qui était apprécié de tout le monde et qui était décédé après 8 jours d'une maladie mystérieuse. Et ce que le père Laure ignorait à ce moment-là, c'est que ce décès allait être suivi de plusieurs dizaines dans cette communauté. Là, on s'entend que la population autochtone, c'était pas des milliers de personnes non plus, là. T'sais, y avait pas...
Non, Peugeot, ils ne sont pas allés faire un tour à Marseille.
Non plus. Bon. Et donc, on appelait ça la grande picote à l'époque. C'est même quelques années plus tard, Joseph Laurent Normandin, qui est venu dans la région pour arpenter, va appeler cet épisode-là l'épisode de la grande picote. Et le père Laure était débordé de travail tellement qu'il y avait des morts. Il procédait à l'inhumation tout en accompagnant les nombreux malades vers la mort. Donc, il y a eu quand même une bonne période. Et ce que le père Laure ignorait aussi, c'est que la peste est arrivée en Louisiane dès 1720, donc la Louisiane aux États-Unis, par les vaisseaux du roi, le Toulouse et le Henri, qui étaient partis de Toulon. Et Toulon était situé à seulement une 60aine de kilomètres de Marseille.
De Marseille, OK.
Donc, le lien, c'est là qu'il se fait, en fait. Fait que, donc, les deux, pendant la traversée, la peste s'est déclarée sur l'un des navires. Et une bonne partie de l'équipage a été emportée. Et dans les mois suivants, près de 900 personnes de la ville de Biloxi, parce que ça, les navires ont accosté. Et il y avait encore des gens qui étaient porteurs de la peste. Et c'est là que ça s'est...
propagé.
Et donc, la ville de Biloxi et des postes environnants ont été emportés par la maladie, dont 900 personnes. Mais les Innus, eux, ils pensent que c'est le père Laure qui a emmené ça chez eux, parce qu'avant qu'il arrive, ben il n'y avait rien. Puis là, ben tout le monde se met à être malade et à mourir. Et ils vont l'accuser d'avoir apporté la maladie. Et il a passé un mauvais quart d'heure, parce qu'il y en a même qui l'ont attaqué physiquement.
Oh!
Parce qu'il était, évidemment, il était fâché, il comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait.
Qu'est-ce qui se passait?
Et parce que le père Laure avait passé l'hiver à Chicoutimi, mais au printemps, il avait senti le besoin d'une cure de repos. Il s'était fait ramener à Québec. Mais aussitôt arrivé, il a décidé de revenir à sa mission en canot. Et au début juin, il était à Tadoussac, où il a procédé à plusieurs baptêmes, où la population semblait en santé. Il a retourné à Chicoutimi, où il a été reçu par le chef Joseph Marachikatik, qui était alors pétant de santé, ainsi que toute la communauté. Mais quelques jours plus tard, plusieurs familles Innu sont arrivées avec des ballots de marchandises.
Ah. Donc,
et peu de temps après avoir ouvert les 10 ballots, les employés du poste de traite et les engagés commencèrent à se sentir mal et à faire de la fièvre.
Ça arrivait avec la marchandise?
Exactement. Donc, c'est parti de Biloxi, ou en tout cas de la Louisiane, et c'est redescendu les ballots avec sûrement des puces porteuses du bacille, de la peste, et c'est redescendu jusqu'à Chicoutimi.
Puis dans ce temps-là, les quarantaines, ça devait pas vraiment
Ben non, c'est ça, exactement. Mais... Ils ne faisaient pas le lien avec, avec ça. Et donc, ceux qui avaient acheté des couvertures et des vêtements aussi ont commencé à faire, évidemment, de la fièvre. Et la maladie s'est répandue comme une traînée de poudre à partir de ce moment-là. Et à la fin, les quelques survivants se sont réfugiés en forêt. Et le père Laure n'avait plus personne de qui s'occuper, parce qu'il était tout mort ou parti. Et ben, donc, il a décidé de repartir à Tadoussac et retrouver les 25 familles qui se trouvaient là, qui n'avaient pas été touchées, eux, par la maladie. Donc, ils n'avaient pas dû recevoir ces ballots-là. Et c'est sûr qu'il est difficile de savoir 300 ans plus tard la vérité, mais on peut tirer quand même les conclusions. La conclusion suivante, c'est que le père Laure ne fut pas lui-même atteint par la maladie. Il est mort finalement aux éboulements en 1738, âgé de 50 ans, ce qui était quand même à l'époque relativement âgé.
Ben oui.
Parce que l'espérance de vie n'était pas très grande. Et bien qu'il se soit arrêté à Tadoussac au début juin, personne n'a contracté la maladie. Donc, c'est ça, il est plus probable que le bacille se trouvait dans les couvertures et les vêtements qui avaient été transportés depuis la France, donc Toulon, et avaient parcouru des milliers de kilomètres depuis la Louisiane jusqu'au Saguenay, en infectant, évidemment, tous ceux qui y touchaient.
Oui, ben oui, c'est ça.
Et le bacille se trouvait dans les poux de corps très fréquents à l'époque. On sait que l'hygiène, bon, c'était pas comme aujourd'hui. Et à la faveur, dans le fond, du manque d'hygiène, des nuées de mouches très présentes au mois de juin et le fait que les nouveaux vêtements étaient récupérés sur les morts par les vivants, on récupérait tout à l'époque.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Les personnes ne se doutant pas que l'épidémie, dans le fond, venait de là, bien, ça a continué à infecter des gens jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne à infecter, en fait, comme toute épidémie. Et donc, c'est ainsi qu'une maladie qui s'est déclarée sur un autre continent a pu faire plusieurs victimes au fin fond des bois du Saguenay.
Comme ça peut arriver encore aujourd'hui
avec
la COVID,
et
avec
c'est
la
encore plus rapide aujourd'hui parce qu'avec les avions, bon,
les
communications sont quand même plus rapides, fait que ça a plus de facilité. On l'a vu avec la COVID et d'autres épidémies aussi.
C'est intéressant de savoir ça, de penser qu'en 1721, ici, à Saguenay... À Chicoutimi, pas loin, il y avait des gens qui mouraient de la peste quand même.
Oui, puis surtout aussi, les populations autochtones n'avaient aucune immunité parce qu'ils n'avaient jamais été en contact
avec
ça. Ce que le père Laure, lui, ne l'a pas attrapé, peut-être parce qu'il avait déjà été en contact avec une certaine forme de cette maladie-là, ou peu importe. Il avait une bonne immunité en étant européen, donc il avait eu affaire à quand même plusieurs épidémies, ce que les Autochtones n'avaient pas nécessairement ici, donc ils étaient plus vulnérables.
Très intéressant comme histoire, encore une fois, Myriam. J'ai hâte de te recevoir la prochaine fois. En général, tu nous gardes le sujet comme surprise.
Mais je l'ai là. Je
peux tu l'as en plus, juste pour me contrarier.
Je m'ennuyais trop. Donc, le prochain sujet, ça va être le Chicoutimien Ben Côté, qui est devenu l'homme le plus fort du monde en 1961. Donc, il y a sûrement des auditeurs qui se rappellent de ce monsieur-là.
En 1961, parce que l'histoire, des fois, c'est pas juste dans les années 1700, c'est aussi...
Il y a 60 ans.
Ben oui, il y a 60 ans et plus. Ben merci beaucoup, Myriam. Si les gens veulent te rejoindre pour poser des questions sur l'histoire, pour des recherches, pour tout ce qui se pose, tu sais, des fois, on cherche l'histoire d'un parent ou on peut te téléphoner, on peut te poser des questions.
Absolument. Donc, ils peuvent appeler au 418-698-3516. Mon poste, c'est le 6314. Et ils peuvent aussi écrire à archive avec un s.saguenay@commercialbanq.qc.ca.
Merci beaucoup.
Fait plaisir.
À très bientôt. Il est 9h24.